Chapitre 13. Vallée sèche. Durant la matinée, après un bon petit déjeuner préparé par les serviteurs de la mère de Daeman et dégusté dans ses appartements de Paris Cratère, Ada, Arman, Anna et Daeman se faxèrent sur le site du dernier festival de l'homme qui brûle. Le neufax était éclairé, bien entendu, mais une profonde obscurité régnait à l'extérieur du pavillon, et il soufflait un vent dont les hurlements étaient parfaitement audibles malgré le champ de force semi-perméable. Arman se tourna vers Daeman.
« C'est le code que j'ai composé. 2186. Ça te semble correct ?»«
C'est un pavillon fax !» répondit son cadet d'une voix geignarde. « Ils se ressemblent tous. En plus, il fait nuit. Et l'endroit est désert. Comment pourrais-je savoir si c'est bien ici que je suis venu il y a 18 mois, en plein jour et au milieu d'une foule de gens ?»«
Le code me semble bon, » intervint Anna. « Je suivais d'autres fêtards, mais je me souviens que le nœud de l'homme qui brûle avait un numéro élevé que je n'avais jamais composé avant ce jour.
« Rappelle-moi l'âge que tu avais à l'époque, » ricana Daeman. « 17 ans, c'est ça ?»«
Un peu plus. »
La voix d'Anna était glaciale. Là où Daeman était pâle et grassouillet, Anna exhibait son hâle et ses muscles. Comme s'il prenait conscience de cette disparité, bien qu'il n'ait jamais vu deux humains en venir aux mains ailleurs que dans l'épopée du Turin, il recula d'un pas. Indifférente à leur échange tendu, Ada se dirigea vers le pourtour du pavillon, posant ses doigts mains sur le champ de force. Celui-ci ondoya, ploya, mais ne céda point.
« Ceci est solide, » déclara-t-elle. « Nous ne pouvons pas sortir.
« Ridicule !» fit Arman.
Il alla lui prêter main forte et tous deux se mirent à pousser des mains et des épaules, pesant de tout leur poids sur le champ énergétique qui se révéla des plus résistants malgré son élasticité. Il n'était pas semi-perméable après tout, à tout le moins, il ne laissait pas passer les objets concrets tels que les êtres humains.
« Je n'ai jamais vu une chose pareille !»
dit Anna en tentant à son tour de le faire céder.
« Pour quelle raison emprisonnerait-on un pavillon fax dans un champ de force ?»«
Nous sommes pris au piège !» dit Daeman en roulant des yeux égarés. « Comme des rats !»«
Crétin !»
lança Anna. Décidément, ces deux-là ne semblaient pas faits pour s'entendre.
« Tu peux toujours te faxer !»
ajouta-t-elle.
« Le portail est derrière toi, et il fonctionne encore, lui !»
Comme pour confirmer cette observation, deux serviteurs sphériques du modèle courant émergèrent du portail chatoyant pour se diriger vers les humains.
« Ce champ de force nous empêche de sortir, » leur dit Ada.
« Oui, Ada Our, » répondit l'une des machines. « Veuillez nous excuser pour le retard avec lequel nous venons vous aider. Ce neufax est rarement utilisé. »
« Et alors ?» fit Arman.
Il croisa les bras et gratifia le serviteur d'un regard furibond. La seconde sphère s'était rapprochée d'une des niches de fourniture enchâssées dans la colonne blanche du pavillon.
« Depuis quand les neufax sont-ils scellés ?» reprit Arman.
« Veuillez accepter mes excuses, Arman Our, »
dit le serviteur de cette voix quasi-masculine qui était l'apanage de ses semblables de par le monde.
« Le climat de cette région est extrêmement peu hospitalier à cette époque de l'année. Si vous étiez sorti sans thermopot, vos chances de survie auraient été des plus faibles. »
Le second serviteur attrapa quatre thermopots dans la niche et offrit à chacun des humains une de ces tenues moléculaires encore plus fines qu'une feuille de papier. Daeman tint la sienne à bout de bras et prit un air interloqué.
« C'est une blague ?»«
Non, » répondit Arman, « j'ai déjà porté une tenue comme celle-ci. »«
Moi aussi !»
déclara Anna. Daeman déplia la thermopot.
On aurait dit un foulard de fumée.
Je ne pourrais jamais enfiler ça par-dessus mes vêtements.
Ce n'est pas prévu pour, expliqua Arman. La thermopot doit être en contact avec la peau. Il y a aussi une cagoule, mais elle ne t'empêchera ni de voir ni d'entendre. Pouvons-nous porter nos vêtements par-dessus? Demanda Anna.
Sa voix trahissait une certaine contrariété. Après son petit numéro d'exhibitionniste de la veille, elle ne se sentait guère aventureuse, du moins pour ce qui était de la nudité. Ce fut le premier serviteur qui lui répondit.
« Cela vous est déconseillé, Ada Ur, sauf s'il s'agit de vos chaussures. La thermopot doit être pleinement osmotique si l'on veut en garantir l'efficience. Les vêtements sont un obstacle à celle-ci. »«
Vous plaisantez !» s'emporta Daeman.
« Nous pourrions toujours nous faxer chez nous pour récupérer des vêtements chauds, proposa Harman, mais je ne suis pas sûr qu'il soit conçu pour ces conditions climatiques.
Il jeta un coup d'œil à la muraille chatoyante du champ de force. Les hurlements du vent étaient toujours aussi violents, toujours aussi effrayants.
Non,
intervint le second serviteur.
Veste, manteau et cap standard seraient totalement inadéquats dans la vallée sèche. Si vous le préférez, nous pouvons fabriquer des vêtements appropriés et vous les livrer dans un délai de 30 minutes.
Et puis zut, fit Ada. Je veux voir ce qu'il y a là-dehors.
Elle alla au centre du pavillon, derrière le portail proprement dit, et commença à se déshabiller au vu de tous. Anna la rejoignit en 5 enjambées, entreprenant d'ôter sa tunique et son sarouel de soie. Daemon se rinça l'œil un petit moment. Harman se dirigea vers lui, le prit par le bras et le conduisit à l'autre bout du cercle où il se déshabilla à son tour. Tout en faisant de même, Daemon jeta plusieurs regards en direction des deux femmes. L'éclat des plafonniers halogènes parait la peau d'Ada d'une nuance dorée, celle d'Anna ayant une teinte franchement basanée. Ladite Anna leva les yeux alors qu'elle se glissait dans les jambes de sa thermopeau et gratifia Daemon d'un rictus menaçant. Il s'empressa de regarder ailleurs. Lorsque tous quatre se tinrent au centre du pavillon, vêtus chacun d'une thermopeau et d'une paire de bottes ou de chaussures, Ada éclata de rire.
« Ces tenues en montrent plus que si nous étions tout nus !» dit-elle.
Constatant qu'elle disait vrai, Daemon se mit à danser d'un pied sur l'autre en signe de gêne, mais Harman se fendit d'un sourire sous son masque. Il avait l'impression d'être couvert de peinture plutôt que vêtu.
« Pourquoi portons-nous des couleurs différentes ?» demanda Daemon.
Ada était jaune vif, Anna orangé, Harman bleu azur et Daemon vert.
« Pour faciliter l'identification, »
répondit le serviteur comme si la question s'adressait à lui. Ada partit d'un nouveau rire, un rire frais, juvénile, spontané, qui fit sursauter les deux hommes.
« Pardon, » fit-elle. « C'est juste que, même de loin, il est facile de nous distinguer les uns des autres. »
Harman alla se planter devant le champ de force et le pressa de sa main bleue.
« Pouvons-nous passer à présent ?» demanda-t-il au serviteur.
Les machines ne répondirent pas, mais le champ de force ondoya doucement. Harman y passa la main au travers, puis son corps bleu sembla se couler dans une cascade argentée, et il disparut. Les serviteurs les suivirent dans la nuit tempétueuse.
« Nous n'avons pas besoin d'escorte, » leur dit Harman.
Daemon remarqua que le bruit du vent étouffait la voix de son aîné, mais qu'il la captait grâce à la cagoule de la thermopeau. Dans la tenue moléculaire était incorporé un transmetteur et des écouteurs.
« Permettez-moi de vous détromper, Harman Ur, » dit le premier serviteur. « Pour votre éclairage. »
Les deux machines illuminaient le sol inégal avec les lampes intégrées à leur carapace. Harman secoua la tête.
« J'ai déjà utilisé ces thermopaux dans les montagnes et dans le Grand Nord. Les lentilles de la cagoule sont équipées de systèmes d'intensification de la luminosité. »
Il se palpa la tempe.
« Là, j'y vois parfaitement maintenant. Les étoiles sont brillantes.
Oh. »
fit Ada comme ses propres systèmes se mettaient en route. À la place des petits disques de lumière découpés par les lampes des serviteurs, c'était la totalité de la vallée sèche qu'elle découvrait et le moindre rocher, le moindre caillou, était éclairé comme en plein jour. Lorsqu'elle leva les yeux, l'éclat des étoiles lui coupa le souffle. Elle se tourna et le pavillon fax illuminé était une véritable fournaise solaire. Quant à leur thermopeau, elles brillaient comme des soleils colorés.
« C'est fantastique !»
s'exclama Anna. Elle s'éloigna d'une vingtaine de pas en sautant d'un rocher à l'autre. Le petit groupe se trouvait au fond d'une large vallée rocheuse, bordée sur ses deux flancs par des collines aux pentes douces. Dans les hauteurs, on remarquait des étendues enneigées que la lueur des étoiles colorait d'un bleu intense, mais la vallée proprement dite était dégagée. Les nuages qui couraient devant le firmament ressemblaient à des moutons phosphorescents. Le vent hurlait de toutes parts, les bousculait même quand ils ne bougeaient pas.
« J'ai froid !» protesta Daemon.
Le jeune homme grassouillet dansait d'un pied sur l'autre. Il était chaussé de simples sandales.
« Vous pouvez nous laisser et retourner dans le pavillon, »
dit Harman au serviteur.
Avec tout le respect que nous vous devons, Arman Ur, notre programme de protection des personnes ne nous autorise pas à vous laisser seul, car vous risquez de vous blesser ou de vous égarer dans la vallée sèche. Mais nous maintiendrons avec vous une distance de 100 mètres, si cela vous agrée.
« Cela nous agrée, » répliqua Arman. « Et éteignez vos satanées lampes. Elles sont trop brillantes pour nos lentilles. »
Les deux serviteurs s'exécutèrent, puis regagnèrent la proximité du pavillon. Anna ouvrit la marche pour entrer dans la vallée. Exception faite des quatre humains luisants de couleur vive, on n'y trouvait pas le moindre signe de vie, ni arbre, ni herbe, rien.
« Est-ce le site du festival de l'homme qui brûle ?» demanda Arman.
Daiman et Anna examinèrent les alentours. Ce fut Daiman qui prit la parole.
« Peut-être, mais il y avait, comment dirais-je, des tentes, des pavillons, des toilettes et des dômes, sans parler du champ de force recouvrant la vallée, des chaudières et de l'homme qui brûle. Et puis, il faisait jour et... je ne reconnais plus rien. J'oubliais, il faisait moins froid. »
Il se mit à sautiller sur place.
« Anna ?» encouragea Arman.
« Je ne sais pas. Nous étions dans un lieu rocailleux et désolé, mais... Daiman a raison, il y avait du soleil et des milliers de gens, et je ne reconnais rien, moi non plus. Impossible à dire. »
Ada prit une décision.
« Dispersons-nous et cherchons des traces du festival. Les restes d'un feu de camp, d'un cairn rocheux, n'importe quoi. Mais je ne pense pas que nous trouverons ta juvérante ici cette nuit, Arman.
Chut !» fit celui-ci.
Il jeta un regard entendu en direction des serviteurs, se rappelant trop tard que, de toute façon, il captait leur conversation grâce au transmetteur.
« D'accord, » soupira-t-il. « Dispersons-nous, mais ne nous éloignons pas plus d'une trentaine de mètres et cherchons tout ce qui... »
Il se tut, apercevant une silhouette à peine humanoïde qui émergeait d'un canyon. La créature se fraya un chemin parmi les rochers, avec une démarche pataude qui leur était familière. Lorsqu'elle ne fut plus qu'à une dizaine de mètres, Arman lui lança
« Allez-vous-en ! Nous n'avons pas besoin de Voynix ici !»
L'un des serviteurs leur répondit, et sa voix sonna claire dans leurs écouteurs bien qu'il se trouvât loin derrière eux.
« Nous devons insister, mesdames et messieurs. Le Neufax est le plus reculé, le plus hostile de tous. Nous ne pouvons courir le risque que vous soyez blessés. »
« Y a-t-il des dinosaures ici ?» demanda Daiman d'une voix angoissée.
Ada partit d'un nouveau rire et ouvrit tout grand les bras, comme pour étreindre les ténèbres glaciales et hurlantes.
« J'en doute fort, Daiman. Il faudrait qu'ils appartiennent à une espèce hivernale recombinée dont je n'aurais jamais entendu parler. »«
Tout est possible, »
dit Anna en désignant un grand rocher dissimulant l'entrée d'un autre canyon à 50 mètres de là.
« Il y a peut-être un allosaure qui nous gâte là derrière. »
Daiman recula d'un pas et faillit trébucher sur un caillou.
« Il n'y a pas de dinosaures dans cette région, » déclara Arman. « Cela m'étonnerait fort qu'on y trouve quoi que ce soit de vivant. Il fait trop froid, bon sang. Ôtez vos cagoules si vous ne me croyez pas. »
Ils s'exécutèrent. Leurs cris résonnèrent dans les écouteurs.
« Ne bougez pas d'ici jusqu'à ce qu'on vous appelle, » dit Arman au Voynix.
La créature recula de 30 pas. Ils s'engagèrent dans la vallée, mettant le cap au nord-est à en croire leur fonction orientation. Le vent soufflait si fort qu'il semblait faire frémir les étoiles, et ils étaient parfois obligés de se blottir à l'abri d'un gros rocher pour éviter d'être emportés. Lorsque le vent se calma enfin, ils se déployèrent à nouveau.
« Il y a quelque chose ici !»
appela la voix d'Ada. Les autres coururent vers la silhouette jaune vif distante de 30 mètres. Ada examinait un objet qui, de prime abord, ressemblait à un banal rocher, mais comme il s'en approchait, Daiman distingua une fourrure friable, d'étranges nageoires et des trous noirs qui étaient peut-être des yeux. L'animal semblait sculpté dans un bois usé par les intempéries.
« C'est une otarie, » dit Arman.
« C'est-à-dire ? »
demanda Anna en s'agenouillant pour toucher l'animal pétrifié.
« Un mammifère aquatique. J'en ai observé près des côtes, loin des Neufax. »
Il se mit à genoux lui aussi pour palper le cadavre.
Cette bête est desséchée, momifiée pour être précis. Elle est peut-être ici depuis des siècles, voire des millénaires.
Donc nous sommes à proximité d'une côte,
fit remarquer Ada.
Pas nécessairement,
répliqua Arman en se relevant pour regarder alentour.
« Hé !» fit Daeman. « Je me souviens de ce gros rocher. Le tonneau de pierre était installé juste en dessous. »
Il se dirigea lentement vers le rocher en question près de la falaise.
« Tu en es sûr ?»
demanda Ada une fois qu'ils l'eurent rattrapé. On ne distinguait rien excepté le rocher se dressant vers les étoiles à l'éclat glacial et les nuages pressés. Tous fouillèrent le sol en quête de traces laissées par une tente, un feu de camp, un cabriolet, mais en vain.
« C'était il y a un an et demi, » dit Arman. « Les serviteurs ont probablement nettoyé à fond et... »«
Oh mon Dieu !»
s'exclama Anna.
Tous se tournèrent vers elle. La jeune femme en tenue orangée fixait le ciel. Tous levèrent les yeux alors même qu'ils remarquaient les mouchetures de couleurs qui dansaient tout autour d'eux. Le ciel nocturne était parcouru de draperies de lumière mouvante, des rideaux de bleu, de jaune et de rouge dansant.
« Qu'est-ce que c'est ?»
murmura Ada.
« Je l'ignore, » répondit Arman sur le même ton.
La lumière continua de danser sur les parties du ciel vierge de tout nuage. Arman souleva la cagoule de sa thermopeau.
« Mon Dieu, c'est presque aussi brillant en vision ordinaire. Je crois que j'ai déjà vu quelque chose comme ça il y a des décennies lorsque j'étais... »«
Serviteur !» coupa Daeman. « Qu'est-ce que c'est que cette lumière ?»
Il s'agit d'un phénomène atmosphérique associé à l'interaction de particules chargées provenant du Soleil avec le champ électromagnétique de la Terre,
déclara la voix de la machine.
Nous ne disposons plus des détails de l'explication scientifique, mais ce phénomène est connu sous plusieurs noms, notamment...
Peu importe, fit Arman. Ça suffit.
Hé !
Il venait de remettre sa cagoule et fixait le rocher devant eux. Sur sa surface étaient tracés des signes complexes. Il ne semblait pas avoir été produit par le vent ni par un autre phénomène naturel.
« Qu'est-ce que c'est ?»
demanda Ada.
« Cela ne ressemble pas aux symboles qu'on trouve dans les livres ?»«
Non, »
fit Arman.
« Est-ce que cela daterait de l'homme qui brûle ?»
s'enquit Anna.
« Je ne me rappelle pas avoir vu des gribouillis sur le rocher près du tonneau de bière, »
intervint Daeman.
« Mais peut-être que les serviteurs ont éraflé la roche en déménageant le matériel après la fête. »
« Peut-être, » fit Arman. « Est-ce que nous continuons à fouiller les lieux ?»
demanda Ada.
« Au cas où nous trouverions une trace de cette femme que tu recherches ? Ou même du festival de l'homme qui brûle ? Peut-être reste-t-il des cendres quelque part ?»«
Avec ce vent ?» ricana Daeman. « Au bout d'un an et demi ?»«
Une fosse ?» suggéra Ada. « Un feu de camp ? Nous pourrions... »«
Non, » décréta Arman. « Nous ne trouverons rien ici. » « Faxons-nous dans un endroit chaud et mangeons un peu. » Ada tourna vers lui sa tête jaune vif, mais ne dit rien. Les deux serviteurs s'étaient rapprochés d'eux et le Voynix lui aussi était dans les parages.
« Nous repartons, » dit Arman au serviteur le plus proche. « Vous pouvez allumer vos lampes pour nous éclairer la route jusqu'au pavillon Fax. »
Il était midi passé à Oulambat et, comme d'habitude, une centaine de convives participaient à la fête organisée pour les devins de Toby au 79e étage des Cercles du Paradis. La brise soufflant du désert rouge faisait bruire et frémir les jardins suspendus. Daeman fut accueilli par un groupe de jeunes hommes et de jeunes femmes qui n'avaient pas remarqué son absence de quelques jours, mais il suivit Arman, Anna et Ada, qui trouvèrent des encas chauds au buffet et commandèrent du vin frais à un serviteur. Peu désireux de se mêler à la foule, Arman conduisit le petit groupe vers une table de pierre située près du muret, sur le pourtour du cercle. 250 mètres plus bas, des caravanes de chameaux guidées par des serviteurs et suivies par des Voynix défilaient sur l'autoroute de Gobi.
« Qu'y a-t-il ? »
demanda Ada tandis qu'il s'installait pour manger à l'ombre du jardin.
« Il s'est passé quelque chose là-bas, je le sais. »
Arman ouvrit la bouche, se figea et attendit qu'un serviteur passant par là se soit éloigné.
« Tu ne t'es jamais demandé si tel serviteur n'était pas le même que tel autre que tu aurais aperçu ailleurs ?
Ils se ressemblent tous.
« Quelle idée ridicule !»
s'exclama Daeman. Entre deux bouchées de poulet, il se léchait les doigts et sirotait son vin.
« Peut-être, »
fit Arman.
« Qu'est-ce que tu as vu là-bas ? »
demanda Anna.
« Ces griffonnages sur le rocher ? C'était des nombres,
déclara Harman. Daeman éclata de rire.
Bien sûr que non. Je sais ce que c'est qu'un nombre. Nous le savons tous. Ces gribouillis n'étaient pas des nombres.
C'était des nombres écrits sous la forme de mots. Cela ne ressemblait pourtant pas aux symboles dans les livres,
fit remarquer Ada.
Aux mots. En effet,
dit Harman.
Je pense que cela correspond à l'écriture manuelle que l'on pratiquait jadis. Ces mots étaient déformés, attachés les uns aux autres et en partie effacés par le vent. À mon avis, ils ont été inscrits là lors du dernier homme qui brûle. Mais je pouvais les lire.
Des mots,
ricana Daeman.
Il y a une minute, c'était des nombres.
Que disait-il?
Demanda Anna. Harman jeta un nouveau regard alentour.
8, 8, 4, 9,
murmura-t-il. Ada secoua la tête.
Cela ressemble à un code fax, mais il est trop élevé. Jamais je n'ai entendu parler d'un code commençant par 2-8.
Peut-être parce qu'il n'en existe pas,
trancha Daeman. Harman haussa les épaules.
Peut-être. Mais quand nous en aurons fini ici, je vais le tester sur le neufax local.
Ada se tourna vers le lointain horizon. Les anneaux étaient visibles au-dessus de leur tête, deux filets lactés dessinant une croix dans le ciel bleu pâle.
Est-ce pour cette raison que tu as conservé les 4 thermopots plutôt que de les jeter à la poubelle comme nous l'ont demandé les serviteurs?
Je ne savais pas que tu m'avais repéré,
répliqua Harman qui sourit et but une gorgée de vin. Je me suis pourtant efforcé d'être discret.
Peut-être que je ne suis pas doué pour le secret.
Enfin, les serviteurs s'étaient déjà faxés. Comme obéissant à un signal, un serviteur s'approcha de la table pour remplir leur verre. La petite machine sphérique flottait derrière le muret, 250 mètres au-dessus du sol rouge orangé, tandis que ses délicates mains gantées de blanc les gratifiaient d'une nouvelle dose de vin. Si Anna n'avait pas insisté pour qu'ils enfilent les thermopots en dessous de leurs vêtements, peut-être auraient-ils péri dès leur arrivée.
Oh, « Bon Dieu !» s'exclama Daeman. « Où sommes-nous? Que se passe-t-il ?»
Le pavillon fax brillait par son absence. Le code 8849 les avait conduits droit dans les ténèbres et le chaos. Le vent était assourdissant, le sol recouvert de glace. Chaque fois qu'il faisait un pas dans les ténèbres, c'était pour se heurter à un objet tranchant. Même le portail fax s'était évanoui.
« Ada !» appela Harman. « Les lampes !»
Les cagoules étaient équipées de systèmes de vision nocturne, mais aucun d'eux n'avait enfilé la sienne et aucune lumière d'ambiance ne semblait pouvoir percer cette noirceur absolue.
« Je la cherche !»« La voilà !»
La petite lampe torche qu'elle avait empruntée à Toby balaya la nuit d'un fin rayon lumineux, leur révélant une porte ouverte festonnée de givre, des stalactites de glace longues d'un bon mètre, des vagues gelées sous leurs pieds. Ada se retourna et éclaira 3 visages sous thermopot aussi surpris que le sien.
« Il n'y a pas de pavillon, » dit Harman.
« Chaque neufax a son pavillon, » protesta Daeman. « Un portail sans pavillon, c'est impossible !»« Pas vrai ?»«
Pas dans l'ancien temps, »
rétorqua Harman.
Il existait alors des milliers de nœuds privés.
« Qu'est-ce qu'il raconte ?»
s'écria Daeman.
« Fichons le camp d'ici !»
Ada projetait le rayon de sa lampe sur le point où ils étaient apparus. Aucun portail n'était visible. Ils se trouvaient dans une petite pièce dont les murs, les étagères et les comptoirs étaient recouverts de glace. Contrairement à ce qui se passait dans un pavillon, on ne voyait en son centre aucun piédestal affublé d'une plaque codante. Ce qui signifiait qu'ils ne pouvaient pas repartir, qu'ils étaient coincés ici. Un million de cristaux de givre dansaient dans le faisceau lumineux. Derrière les murs, le vent hurlait tout son soûl.
Daeman, ta remarque de tout à l'heure semble maintenant appropriée, dit Harman.
Hein? Quelle remarque?
Nous sommes pris au piège, comme des rats.
Daeman tika et le rayon lumineux se déplaça pour éclairer les murs givrés. Le vent semblait hurler plus fort.
C'est le même bruit que dans la vallée sèche, fit remarquer Anna. Mais il n'y avait pas de bâtiment là-bas, n'est-ce pas?
Je ne pense pas, répondit Harman. Mais à mon avis, nous sommes toujours dans l'Antarctique.
Où ça?
Demanda Daeman en claquant des dents.
C'est quoi? quoi l'Antarctique ?
L'endroit glacial où nous étions ce matin,
répondit Ada. Elle franchit le seuil, laissant ses compagnons dans les ténèbres l'espace d'un instant. Ils se précipitèrent à sa suite, se massant derrière elle comme des oisillons derrière leur mère.
« Il y a un couloir par ici, »
déclara-t-elle.
« Attention où vous mettez les pieds. Le sol est recouvert d'une couche de glace épaisse de 30 cm. »
Le couloir pris dans les glaces conduisait à une cuisine prise dans les glaces, laquelle débouchait dans une salle de séjour prise dans les glaces, meublée de divans renversés évoquant autant de congères. Ada promena le rayon de sa lampe sur des fenêtres que la glace équipait d'un triple vitrage.
« Je crois savoir où nous sommes, »
murmura Harman.
« Peu importe, » rétorqua Anna. « Comment faisons-nous pour sortir ?»« Un instant. »
Ada abaissa sa lampe si bien qu'ils se retrouvèrent éclairés par le reflet du rayon sur la couche de glace recouvrant le sol.
« Où sommes-nous, selon toi ? »
demanda-t-elle à Harman.
« D'après l'histoire que j'ai lue, la femme que je recherche, la juive errante, avait un foyer, un domi, sur le mont Erebus, un volcan de l'Antarctique.
« C'est dans la vallée sèche ?»
s'enquit Daeman. Le jeune homme ne cessait de jeter des regards inquiets vers les ténèbres.
« Je vais mourir de froid !»
gémit-il. Anna fonça sur lui avec une telle vivacité qu'il eut un mouvement de recul et faillit glisser et tomber.
« Espèce d'idiot ! Il faut mettre ta cagoule ! Nous devons tous mettre nos cagoules, sinon nous allons attraper des engelures, sans compter toute la chaleur corporelle que nous perdons par le cuir chevelu. »
Elle dégagea la cagoule verte de la chemise de Daeman et la mit en place sur son crâne. Les autres s'empressèrent de suivre cet exemple.
« Ça va mieux, » déclara Harman. « Au moins, j'y vois clair, et j'entends nettement mieux. »
Les écouteurs de la thermopo filtrent le bruit du vent.
« Tu disais que cette femme habitait dans un volcan ? C'était près de la vallée sèche ?
Assez près pour que nous allions à pied jusqu'au pavillon ?»
Harman eut un geste d'impuissance.
« Je ne sais pas. Je me suis demandé si c'était comme ça qu'elle était allée à l'homme qui brûle, en marchant, tout simplement. Mais je ne sais rien de la géographie de cette région.
Le pavillon dont tu parles est peut-être à 1000 mètres d'ici, peut-être à 1000 kilomètres. »
Daeman considéra les fenêtres aveugles, plaquées de glace, dont les vitres incassables tremblaient sous les assauts du vent.
« Je ne sortirai pas d'ici, » déclara-t-il fermement, « pour quelque raison que ce soit. »«
Pour une fois, je suis d'accord avec Daeman, »
dit Anna.
« Je ne comprends rien à tout cela, »
s'emporta Ada.
« Tu dis que cette femme a vécu ici il y a longtemps, il y a plusieurs vies de cela, des siècles et des siècles. Comment a-t-elle pu ?»«
Je ne sais pas, » coupa Harman.
Il emprunta la lampe d'Ada et s'engagea dans un nouveau couloir. Des barreaux blancs se dressèrent devant lui. Sous les yeux de ses compagnons, il retourna dans la salle de séjour, ramassa le meuble le plus lourd qu'il parvint à dégager de sa gangue de glace, une table dont les pieds se cassèrent net, et retourna devant les stalactites de glace, les fracassant l'une après l'autre et s'ouvrant un passage dans le couloir envahi de neige.
« Où vas-tu comme ça ?» lança Daeman. « À quoi ça sert de bouger ? Ça fait un million d'années que personne n'a mis les pieds ici ! Nous allons nous geler quand... »
Harman ouvrit d'un coup de pied la porte au bout du couloir. De la lumière s'en déversa. Et de la chaleur. Les trois autres le rejoignirent en toute hâte, glissant sur le sol traître. Cet espace était semblable à celui dans lequel ils avaient débarqué du Fax, en ce sens qu'il était dépourvu de fenêtres et mesurait plus de 30 mètres carrés. Mais cette pièce-ci était chaude, éclairée et vierge de neige comme de glace. Elle était occupée dans sa quasi-totalité par une machine métallique ovale, longue d'environ 5 mètres. Celle-ci flottait en silence 1 mètre au-dessus du sol de béton, et sa surface supérieure était recouverte par un champ de force chatoyant, évoquant un couvercle irisé. Ladite surface était creusée de 6 couchettes peu profondes capitonnées de tissu noir. Chacune d'elles avait la longueur d'un corps humain et était équipée de 2 prises ou poignées de contrôle à l'emplacement des mains.
Apparemment, quelqu'un attendait 2 visiteurs de plus,
chuchota Anna.
Mais qu'est-ce que c'est que ça ?
Dit Daeman.
Je crois que c'est un Sony, également appelé un AFV,
dit Harman en baissant la voix lui aussi.
Hein ?
Fit Daeman.
Qu'est-ce que ça signifie ?
Je l'ignore.
Durant l'air perdu, les gens volaient à bord d'appareils comme celui-ci.
Arman toucha le champ de force. Il s'écarta devant ses doigts comme du mercure, coula autour de sa main, avala son poignet.
« Sois prudent !»
avertit Ada. Mais Arman s'était déjà glissé dans une couchette, commençant par se mettre à genoux, puis s'allongeant sur le ventre. Son crâne et son dos émergeaient à peine de la machine.
« On est très bien ici, » déclara-t-il. « C'est confortable.
Et chaud. »
Voilà qui décida les autres. Ada fut la première à monter à bord de l'appareil, s'allongeant sur le ventre à droite d'Arman et agrippant les deux poignets.
« Est-ce que c'est un système de contrôle ?»«
Je n'en ai aucune idée, » répondit Arman.
Anna et Daeman s'installèrent à leur tour, se plaçant le plus loin possible l'un de l'autre.
« Tu ne sais pas comment faire voler cet engin ?»
demanda Ada d'une voix suraiguë.
« Tu n'as pas appris dans un livre, lors d'une de tes lectures ?»
Arman se contenta de faire non de la tête.
« Alors qu'est-ce qu'on fait dedans ?»
dit-elle.
« Une expérience ?»
Arman fit tourner sa poignée côté droit, révélant un bouton rouge. Il le pressa. Le mur devant eux disparut, apparemment projeté dans la nuit antarctique. Un vent glacial et une neige en furie se précipitèrent sur eux en une bourrasque aveuglante, comme si la tempête venait de chasser l'air de la pièce pour prendre sa place. Arman ouvrit la bouche pour dire « Accrochez-vous », mais avant qu'il en ait le temps, le Sony jaillit de la pièce avec une incroyable vélocité, leur pressant les pieds contre le métal et les amenant à s'agripper farouchement aux poignets. Ce fut grâce au champ de force qui les englobait qu'ils survécurent lorsque le Sony, l'AFV, l'engin, jaillit du volcan blanc, dont les flancs gelés étaient parsemés de bâtiments fracassés sur le côté exposé à la mer. Les lentilles de vision nocturne de leur thermopôle leur permirent de voir une forêt de conifères figées par le gel, des robots abandonnés et à moitié enfouis sous la neige le long d'une baie, puis la mer blanche, la mer prise dans les glaces. Le Sony adopta une altitude d'environ 300 mètres au-dessus de la banquise et s'éloigna de la terre à toute vitesse. Arman lâcha l'une des poignées le temps d'activer sa fonction orientation.
« Cap au nord-est, » dit-il aux autres via le transmetteur.
Personne ne réagit.
Ils étaient tous tétanisés, trop effrayés pour gloser sur la direction qu'avait prise la machine afin de les conduire à une mort certaine.
Arman s'abstint de leur dire que, à en croire les vieilles cartes qu'il avait étudiées, il n'y avait rien dans cette direction sur plusieurs milliers de kilomètres. Strictement rien. Au bout de 10 minutes, le Sony se mit à perdre de l'altitude. Ils avaient laissé la banquise derrière eux pour survoler à présent les eaux noires mouchetées d'iceberg.
« Que se passe-t-il ? »
demanda Ada. Le tremblement de sa voix lui était détestable.
« Est-ce que cet engin est à court d'énergie ? Ou de carburant ?»«
Je ne sais pas !» répondit Arman.
Le Sony se retrouva quelques 30 mètres au-dessus de l'eau.
« Regardez !»
s'écria Anna. Elle lâcha une poignée pour pointer un doigt vers l'avant. Une gigantesque masse vivante, portant des années et des années de bernacle sur une peau tannée par les épreuves, surgissait de l'océan dans une gerbe d'écume, irradiant une chaleur que leurs lentilles restituaient sous la forme d'un halo de sang palpitant. Un jet d'eau jaillit dans leur direction, et Arman sentit une odeur de poisson dans l'air que le champ de force laissait filtrer jusqu'à eux.
« Que ?»
commença Daeman.
« Je crois que ça s'appelle... Oui, une baleine, c'est ça. Et je pensais que l'espèce avait disparu depuis des millénaires. Peut-être que les post-humains l'ont ressuscité ?»
dit Ada dans son transmetteur.
« Peut-être. »
Ils poursuivirent vers le large, maintenant le cap à l'est-nord-est, et après quelques minutes de vol, les 4 passagers du Sony se détendirent un peu, s'adaptant à une situation aussi étrange qu'inédite, comme les humains le font depuis des temps immémoriaux. Arman avait roulé sur le flanc pour contempler les étoiles brillantes, maintenant visibles entre les nuages épars, lorsqu'Ada le fit sursauter en s'écriant
« Regardez ! Devant nous !»
Un vaste iceberg se dressait à l'horizon et le Sony fonçait droit sur lui. La machine avait survolé d'autres montagnes de glace flottante, mais aucune qui fût aussi large. Leur lentille la restituait sous la forme d'une muraille bleutée s'étendant sur plusieurs kilomètres, ni aussi haute. Visiblement, le sommet de cette monstruosité atteignait une altitude nettement supérieure à celle de leur trajectoire.
Que pouvons-nous faire ?
Demanda Ada.
Arman secoua la tête. Il n'avait aucune idée de la vitesse du Sony. Son expérience en matière de conduite sportive se limitait à une virée dans un Drosky tiré par un Voynix, mais il savait qu'elle était suffisamment élevée pour que le choc soit meurtrier.
« Il y a d'autres contrôles sous ta poignée ?»
demanda Ada d'une voix étrangement calme.
« Non. »«
On pourrait sauter !»
proposa Daeman, allongé derrière Arman sur sa gauche. Le Sony s'inclina légèrement comme Arman se redressait à quatre pattes, frôlant de la tête la limite du champ de force.
« Non !»
fit Arman avec toute l'autorité dont il était capable.
« Tu ne survivrais pas 30 secondes dans cet océan, même si la chute ne te tuait pas, ce qui est peu probable. Recouche-toi »
Daeman s'exécuta. Le Sony ne ralentit ni n'obliqua. La falaise de glace, Arman estima la largeur de l'iceberg à 3 bons kilomètres, fonçait sur eux, devenait de plus en plus grande. Arman jugea qu'elle se dressait 100 mètres au-dessus des eaux. Ils allaient la frapper au tiers de sa hauteur.
« Nous ne pouvons vraiment rien faire, »
dit Ada, et ce n'était pas vraiment une question. Arman ôta sa cagoule et se tourna vers elle. La température de l'air était supportable à l'intérieur du champ de force.
« Je ne pense pas, » dit-il. « Je suis désolé. »
Il tendit la main droite pour lui serrer la gauche. Elle ôta à son tour sa cagoule afin qu'il voie ses yeux. Leurs doigts s'entrelacèrent quelques secondes. Quelques centaines de mètres avant l'impact, le Sony ralentit et reprit de l'altitude. Il frôla le sommet de la falaise de glace et vira sèchement sur la droite, survolant l'iceberg en mettant le cap au sud. Il ralentit une nouvelle fois, s'immobilisa et se posa doucement, faisant fondre la neige sous son ventre surchauffé. Arman et ses compagnons restèrent un long moment sans bouger, agrippés à leurs poignets, chacun perdu dans ses pensées. La bulle du champ de force éclata et, soudain, Arman sentit le vent glacial lui brûler le visage. Il s'empressa de rabattre sa cagoule, se tournant vers Ada qui faisait de même.
« Nous ferions mieux de descendre avant que cet engin décide de nous emmener ailleurs, »
dit Anna. Ils se hâtèrent de suivre cette suggestion. Le vent les fit vaciller sur leurs jambes, se calma, menaça à nouveau de les renverser. Les plis de leurs vêtements s'emplirent bientôt de neige.
« Et maintenant ?»
murmura Ada. Comme pour lui répondre, deux enfilades de balises infrarouges s'activèrent, dessinant une allée large de 3 mètres, qui conduisait du Sony à nulle part. Ils avancèrent de front, luttant pour résister aux assauts du vent. Si les balises avaient été moins brillantes, ils auraient tourné le dos aux bourrasques et se seraient perdus en quelques secondes, le temps d'arriver au bord de la falaise et de s'abîmer dans les eaux. L'allée s'achevait sur un trou creusé dans la surface de l'iceberg. On avait taillé des marches dans la glace, un escalier qui descendait vers une lueur rouge.
« On y va ?»
demanda Anna.
« Avons-nous vraiment le choix ?»
rétorqua Daeman. Les marches étaient glissantes sous leurs chaussures inadaptées, mais on avait fixé une corde sur la paroi de droite au moyen de pitons et de mousquetons, et ils s'y accrochèrent durant toute la descente. Arman avait compté 40 marches lorsqu'ils débouchèrent sur un mur de glace. Non, l'escalier obliquait sur la droite, 50 marches de plus, puis sur la gauche, encore 50, éclairé par des balises infrarouges enchâssées dans la glace à intervalles réguliers. Sur le dernier palier, un corridor conduisait dans les profondeurs de l'iceberg, éclairé par des balises bleu-vert en plus des rouges. Ils débouchaient parfois sur un croisement, mais un seul des couloirs se présentant à eux était éclairé. Il leur arriva de remonter en suivant une pente douce. Une autre fois, ils descendirent de 30 mètres ou plus. Bientôt, il leur fut impossible de se repérer dans ce dédale.
« Nous sommes attendus, » chuchota Anna. « J'y compte bien, » répliqua Ada.
Ils émergèrent dans une vaste salle, mesurant 30 bons mètres dans sa plus grande largeur, avec un plafond à 10 mètres de haut, quantité d'ouvertures creusées dans les parois et reliées les unes aux autres par des galeries de glace, et un sol sculpté en gradins. Des chaudières montées sur trépieds luisaient d'une lueur orangée et toutes sortes de sources lumineuses étaient fixées au mur, au sol et au plafond.
Sur une plateforme s'étalait un mélange de coussins et de peaux de bête, autour d'une table où étaient posés des compotiers, des carafes, des assiettes et des verres. Les quatre voyageurs s'approchèrent de ce buffet et le considérèrent d'un œil soupçonneux.
« N'ayez aucune crainte, » lança une voix féminine. « Ce casse-croûte n'est pas empoisonné. »
L'inconnu, qui avait émergé d'une porte proche de la plateforme, descendait un escalier en zigzag pour les rejoindre. Arman eut le temps de remarquer ses cheveux. Ils étaient d'un gris tirant sur le blanc, une couleur qui n'avait la faveur que de rares excentriques, et son visage, sillonné de rides, ainsi que l'avait dit Daeman. Cette femme était plus âgée que tous les êtres humains que tous quatre avaient pu côtoyer, exception faite de Daeman qu'il avait déjà croisé lors de L'Homme qui brûle, et, en dépit de ses 99 ans, Arman lui-même en fut profondément troublé. Abstraction faite de son grand âge, elle était plutôt séduisante. Son pas était décidé et elle portait une tunique bleue de coupe classique, un pantalon de toile et des bottes robustes, la seule touche d'excentricité de sa tenue étant la cape de laine rouge passée sur ses épaules. La coupe en était fort complexe et ses plis semblaient incapables d'adopter un ordonnancement banal. Alors qu'elle arrivait sur la plateforme à quelques mètres d'eux, Arman remarqua l'objet métallique noir qu'elle tenait de la main droite. Comme si elle venait à peine de remarquer sa présence, elle le leva vers eux.
« L'un de vous sait ce qu'est ceci ?»«
Non, » répondirent en chœur Daeman, Ada et Anna.
« Oui, » fit Arman. « C'est une arme datant de l'ère perdue. »
Ses trois compagnons se tournèrent vers lui. Ils avaient vu des armes dans l'épopée du Turin, épées, javelines, boucliers, arcs et flèches, mais rien qui ressemblât à une machine comme cet objet noir.
« Exact, » dit la femme. « Ça s'appelle un pistolet et ça ne fait qu'une chose. Ça tue. »
Daeman fit un pas vers la vieille femme.
« Vas-tu nous tuer ? Nous as-tu fait venir jusqu'ici pour nous tuer ?»
Elle sourit et posa l'arme sur la table, à côté d'un compotier empli d'oranges.
« Bonjour, Daeman. Ça me fait plaisir de te revoir. Mais je ne suis pas sûr que tu te souviennes de notre dernière rencontre. « Tu étais dans un état d'ébriété plutôt avancé. »«
Je me souviens de toi, Savi, » répondit Daeman d'une voix glaciale.
« Bonjour à vous aussi, Anna, Ada et Arman. Bonjour et bienvenue. »«
Tu as suivi les indices avec beaucoup de détermination, Arman. »
Savi s'assit sur les fourrures et, d'un geste, les invita tous à s'installer autour de la table. Elle prit une orange dans le bol, la leur offrit, et comme personne n'en voulait, entreprit de la peler avec ses ongles taillés en pointe.
« Nous ne nous sommes jamais rencontrés, » dit Arman. « Comment se fait-il que tu connaisses mon nom ? Nos noms à tous. »
« Tu as laissé pas mal de traces derrière toi. Quelle est la forme honorifique que vous utilisez ces temps-ci ? Arman Ur ?»«
Des traces ?»
« Tu as marché loin des Neufax, obligeant les Voynix à te suivre. Tu as appris à lire. Tu t'es mis en quête des dernières bibliothèques de la planète, y compris celle d'Ada Ur. »
Elle adressa un signe de tête à l'intéressé qui le lui rendit.
« Comment sais-tu que des Voynix m'ont suivi ?» demanda Arman.
« Les Voynix surveillent tout ce qui sort de l'ordinaire, » répondit Savi.
Elle dissocia l'orange en quartiers, répartit 8 de ceux-ci sur 4 carrés de tissu et les fit passer. Cette fois-ci, ses visiteurs acceptèrent l'offrande.
« Et moi, je te surveille, »
conclut-elle en regardant Arman.
« Pourquoi ?»
Il considéra ses quartiers d'orange et reposa le tissu sur la table.
« Pourquoi m'espionnes-tu ? Et comment t'y prends-tu ?
« Cela fait deux questions, mon jeune ami. »
Arman ne put s'empêcher de sourire. Il y avait belle lurette que ses amis et connaissances ne le qualifiaient plus de jeune.
« Commençons par la première alors.
Pourquoi m'espionnes-tu »
Savi finit son second quartier d'orange et se lécha les doigts.
Arman remarqua qu'Ada semblait fascinée par la vieille femme, qu'elle dévorait des yeux ses doigts ridés et ses mains tavelées par les ans. Si Savi avait conscience de cet examen, elle n'en laissait rien paraître.
Arman, puis-je me dispenser du Ur ?
Sans attendre de réponse, elle poursuivit.
En ce moment, Arman, tu es le seul être humain sur Terre, dans une population de plus de 300 000 âmes, le seul être humain à part moi, qui sache lire un langage écrit, ou qui en ait envie.
Mais comment ça, Arman ?
300 000 personnes ? Interrompit Anna. Mais nous sommes 1 million. Nous avons toujours été 1 million.
Savi sourit, mais fit non de la tête.
Ma chère, qui t'a dit qu'il y avait 1 million d'êtres humains sur Terre aujourd'hui?
Mais personne, enfin.
Précisément, dit Savi. Tout le monde le sait. Sauf qu'il n'existe aucun mécanisme de recensement.
Mais quand quelqu'un monte dans les anneaux,
reprit Anna visiblement désemparée.
Un nouvel enfant vient au monde,
acheva Savi.
Oui, c'est ce que j'ai remarqué durant le millénaire écoulé. Mais vous n'êtes pas 1 million. La population est nettement moindre.
Pourquoi les postes nous mentiraient-ils ? Demanda Arman.
Savi haussa un sourcil. Les postes ? Ah, oui, les postes.
As-tu discuté avec un poste humain ces derniers temps, Daeman Ur?
Daeman dut comprendre qu'elle posait cette question pour la forme. Il n'y répondit pas.
J'ai discuté avec des postes humains,
reprit doucement Savi.
Voilà qui les laissa pantois.
Ils attendirent la suite. À leurs yeux, aux yeux d'Arman et d'Ada du moins, cette affirmation était stupéfiante.
Mais c'était il y a longtemps,
reprit la vieille femme, d'une voix si basse qu'ils se penchèrent vers elle pour mieux l'entendre.
Il y a très, très longtemps. Avant le dernier fax.
Ses yeux, qui une seconde plus tôt étaient d'un gris bleu lumineux, semblaient maintenant voilés, égarés. Arman secoua la tête.
J'ai entendu l'histoire qui te concerne. La juive errante, la survivante de l'ère perdue. Mais je ne la comprends pas. Comment as-tu pu survivre à tes 5 vins ?
Ada sursauta en entendant cette question des plus impolies, mais Savi ne parut nullement gênée.
Premièrement, mes chers amis, la limitation à 100 ans de la durée de vie est une caractéristique récente du genre humain. Une initiative des postes qui est venue après le dernier fax. Après que cette catastrophe eut tout gâché, notre avenir est celui de la planète. Ce n'est que plusieurs siècles après que mes 9113 congénères, les humains post-Rubicon, eurent été faxés dans le courant neutrinique pour ne jamais en revenir, contrairement à ce qu'avaient promis les postes. Ce n'est qu'après ce génocide que vos chers post-humains ont reconstruit la population de base formée par vos ancêtres et imaginé de limiter à 100 ans la durée de vie du million de personnes composant théoriquement leur cheptel.
Savi s'interrompit pour reprendre son souffle. Son agitation était perceptible. Elle inspira à fond et désigna les carafes posées sur la table.
« J'ai du thé, si cela vous intéresse. Et un vin assez fort. Je vais boire un peu de vin. »
Elle joignit le geste à la parole, se servant d'une main qui ne tremblait que légèrement. Elle leur indiqua leur gobelet. Daeman secoua la tête. Anna et Ada prirent du thé. Arman accepta un gobelet de vin rouge.
Arman, reprit-elle, ayant retrouvé sa contenance, tu m'as posé 2 questions avant que je me lance dans ma digression. Primo, pourquoi t'ai-je remarqué? Secondo, comment ai-je fait pour survivre aussi longtemps? La réponse à la première question, c'est que je m'intéresse systématiquement à tout ce qui intéresse et inquiète les Voynix. Et ton comportement n'a cessé de les intéresser et de les inquiéter durant les dernières décennies.
« Mais pourquoi les Voynix s'intéresseraient-ils à moi ?»
commença Arman. Savi leva l'index.
« En ce qui concerne ta seconde question, je peux te dire que j'ai réussi à vivre plusieurs siècles en passant le plus clair de mon temps à dormir et en me cachant quand je suis réveillé. Lorsque je me déplace, c'est soit à bord d'un Sony, le véhicule qui vous a amené ici, soit à pied, marchant d'un pavillon fax à l'autre.
« Je ne comprends pas, » intervint Ada. « Comment peut-on marcher entre deux pavillons fax ?»
Savi se leva. Les autres l'imitèrent.
« Vous avez eu une journée agitée, mes jeunes amis, mais d'autres surprises vous attendent si vous choisissez de me suivre. Si vous ne le souhaitez pas, le Sony vous ramènera au Neufax le plus proche, dans ce qu'on appelait jadis l'Afrique, je crois bien. C'est à vous de choisir. »
Elle se tourna vers Daeman.
« Chacun de vous doit faire son choix. »
Anna finit de boire son thé et reposa le gobelet.
« Et que vas-tu nous montrer si nous décidons de te suivre, Savi Our ?»«
Beaucoup de choses, mon enfant. Je commencerai par vous apprendre à voler, et je vous emmènerai dans des endroits dont vous n'avez jamais entendu parler, dont vous n'avez même jamais rêvé. »
Les quatre compagnons échangèrent un regard. Arman et Ada hochèrent la tête en silence, décidant de concert qu'ils allaient suivre la femme.
« J'en suis, » dit Anna.
Daeman sembla réfléchir durant un long moment, puis il déclara
« J'irai, moi aussi. Mais avant cela, je vais boire un peu de vin fort, après tout. »
Savi remplit son gobelet.